tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Le 17 mars 2023, il s'est produit un terrible drame à Rosemont, à Montréal. Il y a eu 3 personnes qui ont été emportées en même temps, donc c'est un triple meurtre par un jeune homme de 19 ans. Et quand j'écoutais les bulletins de nouvelles, je me disais, je commençais à deviner tranquillement que ça aurait pu, d'après l'âge des personnes, que ça aurait pu être des proches, donc des parents, tout ça. Puis je me suis posé la question, est-ce que c'était ses parents? Et effectivement, ça a été le cas. Les victimes ici... s'appelait Mylène Gingras, 53 ans, Richard Galarneau, 53 ans aussi. Et ça, c'est ses parents, donc il a tué ses parents. Et il a tué aussi sa grand-mère, Francine Gingras Boucher, 75 ans. Des drames comme ça, évidemment, j'ai pas besoin de vous le cacher, que surtout quand c'est récent, ça frappe et ça... Bon, ça soulève l'incompréhension, évidemment. Je voulais intervenir parce que je vous l'avais dit qu'à un moment donné, mes recherches sur les homicides finiraient tôt ou tard par toucher des cas de l'actualité. Parce que dans certaines catégories, surtout, ce n'est pas juste un répertoire d'homicides que je suis en train de créer, mais j'essaie aussi de le classifier avec des catégories de certains types d'homicides basés sur le CCM3 qui s'est fait aux États-Unis par des professionnels. Donc j'ai dû l'ajuster un petit peu parce que les crimes, des fois, il y a certaines variétés au Québec où on a aussi plus de précision. En tout cas, bref. Ici, on n'en parle pas dans les nouvelles. On parle beaucoup de féminicides pour parler d'une certaine autre catégorie ou tout ça. Mais ici, on pourrait parler de parenticide. C'est un crime beaucoup plus rare, évidemment. C'est le fait de tuer les deux parents d'un seul coup. C'est assez rare dans notre histoire. En tout cas, je vois peut-être en répertorier d'autres. Mais heureusement, c'est pas courant. Et ça semble aussi être associé... à la maladie mentale dans bien des cas. Mais il faut faire attention pour expliquer ou en tout cas essayer de dresser un profil de cette catégorie-là. Parce que justement, on n'a pas assez de cas, on n'a pas assez d'échantillonnage pour... mais on va voir encore quelques cas. Là. C'est pour ça que je voulais intervenir avec vous. Là. J'ai déjà des cas là, que j'ai. Donc, on va survoler ça ensemble là, rapidement, juste pour nous donner une idée et nous dire que, bon, oui, en effet, c'est pas fréquent, mais c'est pas la première fois non plus que ça se produit. Il y a un cas, si je remonte rapidement, ça s'est passé le 5 novembre 1965. Dans ce cas-ci, les victimes, c'était les parents, encore une fois. Donc, René Filion et sa femme qui ont été victimes de leur fils, qui s'appelait René Filion Junior. Ça se passait à Verdun, encore une fois, dans la région de Montréal. Et René Filion, de ce qu'on sait, le jeune homme, lui, habitait avec ses parents et il fréquentait une jeune fille que ses parents n'appréciaient pas. Donc, ça arrive, hein? Bon, les parents sont pas d'accord des fois avec la personnalité de la petite copine de leur fils. Mais le problème, c'est que le fils, lui, voulait pas en démordre. Il croyait plus en sa petite amie qu'en ses parents. Et lui, dans sa tête, des connexions se sont faites, je sais pas trop comment, mais pour régler son problème, il a décidé, le 5 novembre 1965, pour éviter des reproches, c'est ce qu'on disait à l'époque, ben, il a décidé d'éliminer ses parents, tout simplement. Il a d'abord assommé sa mère avec une masse, et quand, en tout cas, selon les détails qui ont été rapportés à l'époque là, dans les journaux, quand il a constaté qu'elle bougeait encore, ben, il a décidé de prendre un autre moyen. Il l'a étouffé, donc il a passé de l'objet contondant à la strangulation. Et finalement, il l'a aussi poignardé. Donc, c'était assez rock'n'roll, comme on dit. C'est pas mon intention d'être drôle aujourd'hui, là, mais... voilà, c'est ça, il a utilisé 3 moyens, donc c'est pas rien, ça indique une détermination assez impressionnante, ou même une crise, là, un peu comme ça a été le cas avec, avec l'affaire Galarneau de vendredi dernier. Et ce qu'il y a d'épeurant En tout cas, personnellement, pour moi, dans ça, c'est des fois, c'est pas toujours la scène de crime la plus sanglante qui va me toucher, mais c'est le fait qu'après avoir tué sa mère, ben, son père était pas présent. Donc, il l'a attendu patiemment sur la scène de crime pour le tuer à son tour. Et quand le père est arrivé, ben, il l'a d'abord interrogé sur l'absence de sa mère, parce qu'elle avait l'air d'être absente. Y a rien qui bougeait dans la maison. Puis le jeune homme lui a répondu qu'elle était au magasin, qu'elle était sortie. Et il a profité d'un moment d'inattention de son père pour lui donner 4 coups de masse. Donc c'est sûr que le fait de tuer ses propres parents, c'est impensable en partant. C'est d'habitude, à moins d'avoir eu une vie, bouleversée et perverse ou peu importe, normalement la vie veut qu'on est assez proche de nos parents, en tout cas. C'est pas le cas dans mon entourage, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, c'est mon cas, puis j'en suis bien heureux. Mais c'est ça, malheureusement, même si on s'entend pas avec ses parents, c'est pas une raison pour les tuer, en tout cas, surtout pas de cette façon-là. Et on voit bien aussi qu'il était peut-être un petit peu dérangé dans la boîte à poux, comme on dit, parce qu'après avoir commis son double meurtre, il a pris des effets personnels, donc on peut dire volé, même si son père était mort, là, c'est du vol. Il a volé des effets personnels à son père, incluant 300$ et les clés de son auto. Puis il est parti avec l'auto de son père. Pendant 3 jours, lui, il s'est promené avec des amis dans l'auto, puis c'était le party. Au cours de cette balade-là, de ces 3 jours, qu'on peut dire ces trois derniers jours de liberté, il a essayé de contacter sa petite amie, mais à cause de l'attitude de ses parents, l'ironie dans tout ça, c'est qu'elle a décidé de le laisser, de casser avec lui. Donc, c'est un peu, dans le fond, dans son esprit de soi, c'est un peu comme s'il avait tout fait ça pour rien. Donc, comme on l'imagine, ben, René Fillion, il a été arrêté en mars 1966. Il a plaidé coupable aux 2 accusations de meurtre et il a été condamné à vie. Est-ce qu'il est encore en prison aujourd'hui? Ça m'étonnerait. Mais est-ce qu'il est encore vivant? Qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. Mais bon, bref, c'est assez troublant cette affaire-là. Par la suite, mes recherches ont permis aussi de trouver un autre parenticide, donc un double assassinat des parents. En passant, j'ai pas vu que le terme parenticide était accepté dans la criminologie québécoise, mais c'est pas grave, moi je l'intègre quand même à ma classification, parce que du côté américain, on l'utilise le terme. Donc même parenticide, ce n'est pas un mot accepté encore, je pense... du côté francophone, mais je l'utilise quand même parce que je pense que c'est important de distinguer cette catégorie-là parce que c'est vraiment à part et peut-être que avec plusieurs cas, si on réussit à les mettre dans cette catégorie-là, on va peut-être réussir à en tirer un peu plus d'enseignement, comme on dit. Donc, l'autre cas que j'ai pu trouver, ça s'est passé le 8 mai 1955, donc 10 ans auparavant. Les victimes s'appelaient Laurent Roy, 77 ans, et son épouse de 59 ans. Cette fois-ci, ça se passait à Lachine, plus précisément au 640 5e Avenue à Lachine. Dans ce cas-ci, c'est les beaux-parents, donc, mais quand même, c'est considéré comme les parents. Là. C'est comme quand on parle des meurtres d'enfants par des parents, peu importe là, si c'est la belle-mère ou le beau-père. C'est la personne qui en a charge ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des personnes en autorité. Alors, ça revient pratiquement au même. Donc, bref, pour l'instant, à moins d'avoir beaucoup, beaucoup de cas, pour l'instant, je les classe dans la même catégorie. Lui, ben, ses beaux-parents, il vivait chez ses beaux-parents, Henri Lalonde. Il avait 30 ans. Et un jour, ses beaux-parents lui ont demandé une augmentation de loyer de 5$. Lui, il l'a pas digéré. Il a pété une coche, comme on dit. Il s'est mis en colère. Et le geste qu'il a fait, c'est que il est sorti de la pièce. Il est allé chercher une carabine de calibre 30-30. Et il est revenu pour les abattre tous les deux. Quand on a retrouvé les corps de M. Roy et de sa femme, On dit que Laurent Roy, justement, avait été tué d'un projectile en plein cœur, tandis que sa femme reposait inconsciente dans l'entrée. Elle a succombé, elle, par la suite, donc elle n'est pas morte sur place, là. L'affaire semble avoir attiré tellement les curieux à l'époque. C'est pas surprenant, comme on dit. On a vu des choses des fois qui attirent beaucoup le public, certains crimes plus que d'autres. Et bon, dans ce cas-ci, ça n'a pas fait exception. Il y a tellement de monde qui sont venus que la police a dû cadenasser l'endroit, donc repousser le monde complètement. Plus tard, on a recueilli le témoignage du laitier qui s'appelait Gérard Lefebvre, et lui, il raconte qu'il avait entendu les deux coups de feu juste après avoir effectué sa livraison chez la famille Roy. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ça s'est passé à peu près vers 13h en plein après-midi. En octobre 1956, Henri Lalonde a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Bon, sans commentaire. Puis quand que le verdict a tombé, apparemment qu'il pleurait à chaudes larmes, c'est ce que les journalistes ont rapporté. Et petite surprise pour les plus âgés d'entre vous... son avocat, il était défendu par maître Raymond Daou, rien de moins. C'était un avocat qui était sur le point en 1955 de devenir une grosse pointure du côté des criminels et tout ça. Donc c'est peut-être grâce à lui qui a réussi à avoir un verdict d'homicide involontaire, ce qui était quand même beaucoup moins grave qu'un verdict de meurtre, par exemple. Lui avait plaidé le fait que, Maître Daou, je parle, que le fait que son client était en état d'ivresse avancée au moment de commettre son double meurtre, donc selon lui, ça excusait un peu. Là. Mais bon, monsieur Lalonde s'est mérité une condamnation à la prison à vie, et comme dans le cas de précédent, ben, j'ai pas cherché à savoir non plus s'il était encore vivant. Ou en prison, ou peu importe. Et finalement, j'ai... En tout cas, le plus ancien cas de parenticide que j'ai trouvé remonte à 1927. Et c'est un cas assez particulier. Bon, c'est quand même étrange parce qu'on pourrait le transformer en parricide ou en matricide ou en parenticide. Vous allez voir que c'est assez rock'n'roll, ce dossier-là, qui se passait à La Tuque, en Haute-Mauricie. Et oui, rien de moins qu'à La Tuque. Et même, c'est une affaire, bizarrement, même si on peut la cataloguer, qui peut aussi être sous la bannière des causes non élucidées. C'est vraiment un mystère, cette affaire-là. Donc, je vais essayer de résumer le mieux que je peux, et tout en restant le plus clair possible. Ça se passait en octobre 1927 à Anna Harvey, et bon, elle, qui était mariée avec Honoré Gilbert, a été retrouvée morte dans sa maison à La Tuque. Elle, de ce qu'on dit, en tout cas, de ce qui a pu... être transmis à l'enquête policière, c'est qu'elle serait subitement tombée malade après avoir bu une gorgée de porter dans la bouteille de son mari qui l'avait laissée sur la table. Ça, du porter, je sais même pas si ça existe encore. S'il y a des spécialistes qui peuvent m'écrire pour me le dire, ben vous êtes les bienvenus. Mais c'était un genre de bière, mais plus ou moins brassée, je sais pas trop quoi. C'était plus épais, là, c'était plus... Personnellement, j'ai jamais goûté. Il en existait encore quand j'étais jeune, mais il me semble, mais bon, bref. Disons que c'était une sorte d'alcool ou de bière qui était pas buvable. Donc, son mari, lui... donc, elle est décédée en quelques minutes seulement. Donc, on imagine que le poison devait être assez fort. Merci. Et on a découvert d'ailleurs par la suite que c'était de la strychnine. Son mari, lui, avait également bu dans la même bouteille, au point où il est tombé malade lui aussi. Alors, ça allait pas bien. L'autopsie a permis de retrouver de la strychnine dans le corps d'Anna, mais aussi dans la bouteille de Porter. Le fils de la victime, Gonzague Gilbert, qui avait 21 ans. C'est lui qui a été accusé du meurtre de sa mère, donc il a été accusé d'avoir empoisonné sa mère, alors que son père se trouvait toujours dans un état critique à l'hôpital. Donc, voyez-vous déjà la complexité de la chose? C'est que si l'enquête avait raison, c'est-à-dire que s'il visait sa mère avec le poison, ben il a manqué peut-être un peu son coup, parce que là, il risque aussi la vie de son père. À moins qu'il voulait tuer ses deux parents. Donc, mais avant de se poser d'autres questions, on va continuer. Le procès du jeune homme s'est ouvert à Québec le 5 novembre 1928, donc plus d'un an après les événements. Entre-temps, son père était mort. Il avait succombé au poison, donc ça faisait deux victimes. Donc, techniquement, le résultat, et non pas la motivation, je dis bien... Je l'expliquais là, pour ceux et celles qui ne savent pas, je l'expliquais dans d'autres balados, pour faire la différence entre la motivation du tueur et le résultat de son acte. Mais là, ici, le résultat, c'est un parenticide. Les deux parents sont morts. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils voulaient, par contre. On a appris aussi qu'il y a un dénommé policier, un dénommé Lapointe, là, qui était policier, qui avait demandé à l'accusé si c'était lui qui avait mis le poison dans le porter, donc dans le... cette sorte de bière dégueulasse-là. Puis lui, Gonzague, avait répondu, et j'ouvre les guillemets, « Si c'était moi, je ne vous le dirais pas. » Et je ferme les guillemets. Donc, ça vaut quoi comme preuve, ça? Bref. Et à un dénommé Ernest Desbiens, qui était un ancien membre du conseil municipal de la TUC, Maître Tachereau, donc qui défendait l'accusé, lui a tenté de faire admettre à ce témoin-là qu'il s'était rendu au bureau du procureur général et premier ministre Louis-Alexandre Tachereau afin de révéler qu'Honoré Gilbert s'était engagé à se déclarer coupable de l'empoisonnement de sa femme. Wow! Là, ça change la patente, là. Et je continue. Le père, se sachant mourant, donc Monsieur Honoré Gilbert, qui avait bu lui aussi dans le porter, là, puisqu'il savait qu'il s'en sortirait pas, souhaitait-il prendre tout le blâme justement pour protéger son fils? C'est une question possible. Ou, s'il disait vrai, ça veut dire que ce serait lui le tueur, c'est lui qui aurait voulu empoisonner sa femme. Sauf que, et à moins qu'il était vraiment imbécile, il s'est empoisonné lui aussi. Donc, ça fait pas... Le fait que ce soit le mari qui tue sa femme, ça fait pas de sens, à mon avis. En tout cas, d'après les éléments qu'on a. Donc, ça revient plus peut-être au fils, puis il a peut-être voulu protéger son fils, en sachant peut-être que lui avait bu dans le porter, alors que son fils voulait viser juste sa mère. Voilà. C'est un paquet de questions. Il y a plein de points d'interrogation qui apparaissent. Et vous aurez remarqué aussi, en tout cas j'espère, que dans cette affaire-là, ça avait touché... on est remonté jusqu'au bureau du premier ministre de l'époque. Et rien de moins. Alors c'est comme si quelqu'un faisait une confession aujourd'hui à François Legault, puis dire « Ah, moi, tout ça ». Fait que c'est quand même pas rien. Mais je vous rassure tout de suite, François Legault n'est pas impliqué dans aucun meurtre que ce soit, en tout cas à ma connaissance. Le procès, lui, a mis en lumière le fait que Honoré Gilbert se serait levé plusieurs fois au cours de la nuit pour descendre au rez-de-chaussée et boire du porter, donc il buvait peut-être en cachette. C'est peut-être ça que son fils n'avait pas prévu, puis finalement, papa s'est empoisonné. Il y a Marie-Jeanne Gilbert, donc la jeune sœur de 17 ans de l'accusé. Elle a dit sous serment que son père avait aidé à Gonzague de lui apporter une bouteille de porter. Et c'est ce qu'il avait fait vers 22 heures. Ça, c'est le jour du crime. Et pendant la nuit, Marie-Jeanne avait été réveillée par sa mère qui lui a appris que son père était malade. Donc là, c'est comme si le père tombait malade avant madame. Bref. Ensuite, ses frères se sont précipités hors de la maison pour aller chercher du secours, un prêtre. Là, à cette époque-là, on n'allait pas chercher la police, on allait chercher un prêtre et un médecin. C'était ça. Que voulez-vous? Heureusement, les mœurs ont changé. Maintenant, on appelle la police, puis on contacte le coroner aussi. Donc, bref, ce qui faisait pas de sens tantôt semble en faire maintenant. C'est-à-dire que là, devant les témoins, c'est ce que les témoins rapportent, là. Ça, c'est pas moi. Mais devant sa fille, Honoré Gilbert aurait avoué s'être empoisonné par mégarde. Oh! Donc, il y a encore la possibilité qu'il aurait pu tuer sa femme, puis que là, il avait oublié qu'il en avait peut-être mis dans une autre bouteille, puis ben, il voulait tellement du porter cette nuit-là pour s'endormir qu'il a oublié, puis il en a bu. En bon québécois, on appelle ça un Christ d'innocent, mais bon, bref, c'est une possibilité. Hein, comme on dit, la réalité dépasse souvent la fiction dans ces affaires-là, puis c'est tellement vrai. On a rapporté aussi pendant le procès que sur la table de chevet, elle avait vu deux bouteilles de porter. Oh. Donc, par ailleurs, Henri Gilbert a avoué que son père avait de la strychnine à la maison. Donc, voyez-vous, là, il y a possibilité de s'être trompé parce qu'il y avait trop de bouteilles qui traînaient. Donc, peut-être un problème de ménage. Puis ensuite, ben, il y a Henri qui vient dire que son père, oui, il avait de la strychnine à la maison. Alors, ça vient juste mêler les cartes dans un sens. Et ce procès-là a aussi une autre particularité. C'est que le 7 novembre, la défense a appelé à la barre des témoins nul autre que le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau comme témoin. Eh oui, c'est comme si on appelait François Legault. Encore une fois, je me répète, mais c'est comme si on appelait M. Legault dans un procès pour meurtre. Parce que là, à cause de qu'il avait reçu là, les fameux aveux de Honoré Gilbert avant de mourir. Donc, il venait témoigner là-dessus. C'est sûr qu'il n'était pas accusé, là. On s'entend. Mais quand même, c'est assez peu fréquent qu'un premier ministre soit appelé à témoigner dans un procès pour meurtre. Et de toute façon, pour M. Taschereau, ça s'est passé rapidement. Parce que la cour, donc le magistrat, le juge, quand il a déclaré les questions de la défense illégales, ben ça s'est vite terminé et M. Taschereau a pu retourner à son bureau. Malgré tout ce cafouillage-là, le jury a quand même reconnu coupable le jeune Gonzague Gilbert, qui avait 21 ans, maintenant 22 ans. Et tout de suite, il a été condamné à être pendu le 11 janvier 1929. Mais l'histoire se termine pas là. Maître Aileen Taschereau a porté la cause de son jeune client en appel. Et ça a porté fruit, heureusement pour lui, parce que il semble qu'il va être innocent dans cette affaire-là. Il a tellement eu de succès que la cour d'appel a fini par prononcer l'acquittement de Gonzague Gilbert. Rien de moins. Et oui, et Gonzague Gilbert est retourné vivre en Mauricie par la suite, et c'est là que plus précisément à Grande-Pile, en tout cas selon les informations que moi j'ai trouvées, il est décédé à Grande-Pile le 12 novembre 1976. Alors, l'affaire Gilbert de la Tuque, est-ce que c'est un parenticide? On le saura jamais finalement, on le saura jamais. Je l'ai quand même classé sous la bannière des parenticides. Pourquoi? Parce que c'est une possibilité. Donc, c'est sûr, je garde toujours un point d'interrogation à ce moment-là. Mais même si c'est non élucidé, que c'est mystérieux, la possibilité est quand même là. Donc, ça vaut la peine de l'étudier comme tel. Pour le reste, ben évidemment, il n'y en a pas d'autres. C'est le plus ancien que j'ai trouvé. J'en ai pas retracé, mais c'est sûr que je vous souligne ici que mes recherches sont pas terminées. En particulier de 1973 jusqu'à aujourd'hui. J'en ai beaucoup pour cette période-là, mais je ne les ai pas tous encore. Évidemment, pendant que je fais des balados, mes recherches n'avancent pas. bref, et oui, mes recherches sont pas terminées aussi. J'en ai beaucoup là, sur d'autres périodes plus anciennes, mais j'en trouve encore à l'occasion. Donc, et justement, dans les cas plus récents, je m'en souviens parce que il y a un petit lien particulier à cette affaire-là. Aux alentours de l'année 2000, je me souviens pas de la date, j'ai même pas fait la recherche sur Internet. Je vous parle juste plus de ce que je ressens par rapport à ça. Il y a Alain Piché à Trois-Rivières, plus précisément dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine, qui avait assassiné ses deux parents. Et donc, c'est un autre parenticide plus près de nous. Et lui, ça avait eu certaines péripéties avec le système judiciaire. En tout cas, on en avait parlé à plusieurs occasions parce que s'il y avait la question de maladie mentale dans ça. Et sûrement, parce qu'on peut pas s'imaginer que quelqu'un sain d'esprit tue ses parents froidement, même quand on augmente son loyer de 5$ par mois, comme ça a été le cas tantôt, on a vu. Il y a quelque chose de je sais pas, là, c'est vraiment difficile à dire. Mais ce qu'il y a de particulier avec Alain Piché, c'est que je l'ai connu personnellement. Assez peu, cependant. Mais oui, quand j'étais TQ, j'ai joué au baseball avec lui. On était dans la même équipe. Et j'ai une photo même à la maison que je suis juste à côté de lui et tout ça. Puis j'ai découvert ça bien après le crime. Là, c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer ça parce que j'avais complètement oublié cet épisode-là. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était quelqu'un de... À l'époque, là, quand on était tout petit, c'était quelqu'un déjà de renfermé, de taciturne, et bon, bref. Mais on peut pas dire que tous les cas taciturnes et renfermés vont devenir un jour des tueurs. Mais c'est assez spécial, le fait juste de savoir ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus dans les prochains jours et prochaines semaines à propos de l'affaire Galarneau? Ben sûrement qu'il y a d'autres détails qui vont sortir. Mais n'oubliez pas, gardez à l'esprit que malheureusement, le parenticide existe. Et ce qu'il y a d'optimisme dans ça, c'est que ça arrive très rarement, on l'a vu. Le plus ancien cas, 1927, j'en ai pas vu avant ça. Donc voilà, il y a peut-être juste 4 ou 5 cas comme ça à travers la province. Il en existe peut-être d'autres que je vais découvrir à un moment donné. Mais bref, c'est là-dessus que je voulais en venir aujourd'hui, c'est que ça existe et faut les regarder un peu comme une catégorie d'homicide. Et j'ai bien hâte de voir, moi, parce que là, quand on a arrêté le jeune Galarneau, il était en crise. Donc déjà, assez clairement, on peut parler de... Il y a une déconnexion qui se fait au niveau de la boîte à poux, comme on dit. Donc j'ai hâte de voir la suite des choses là, du côté des examens psychiatriques qu'on va lui faire passer et tout ça. Donc là-dessus, je vous laisse et l'actualité va peut-être nous rattraper encore une fois à bientôt. On ne sait jamais. Merci. Bonne journée.